Bonjour.
Bonjour et bienvenue à Regard Croisé avec Fulgence Blas et
Arlette Farah.
J'étais
tellement pressée de dire bonjour.
Vous savez quoi, il y a des clients qui vont au resto, ils aimeraient manger avant d'avoir passé la commande. Plus rapide que son nombre.
Je te prie de m'excuser.
Bonjour. Arlette, comment vas-tu?
Ben, je vais bien, j'étais impatiente de parler parce qu'on va parler de la langue française dans la première demi-heure.
Oui.
On va recevoir Alexandre Cédric Doucet qui est président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et qui nous parle de la loi sur les langues officielles. Alors, il y a tellement à dire, j'étais plongée dedans et c'est la raison pour laquelle j'ai démarré plus vite que prévu. Et après,
plus rapide que son nom. Deuxième partie d'émission, on va recevoir le... Docteur Calvez qui va nous parler du centre d'excellence en matière infectieuse de l'hôpital général juif qui a déjà lancé, parce que depuis le 8 mars, une campagne de financement. Voilà.
D'accord.
Restez à l'écoute, les détails un peu plus tard. Il est le porte-parole de...
On va l'entendre. Commencer avec le français. Et pour parler de français, eh bien, on vous a choisi Daniel Balavoine qui chante « Le français est une langue qui résonne ».
Quand j'entends s'enrouler les feuilles de l'automne, que le ciel de l'été dans mon cœur se cramponne, je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Quand du fond du Québec les couleurs se bourgeonnent, moi je crois bien que c'est la neige qui s'épleure et frissonne. Puis je me dis que le français est une langue qui résonne. Puis je me dis que le français est une langue qui résonne. Endormi sous la mer qui saigne sur Narbonne, de mes yeux fatigués pleurent des sables de l'or. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Langue d'oc du nord, les accents s'époumonnent. Dans ma tête versée, mon pays se crayonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Assis près de Calais, dessous les lames bretonnes, je regarde arriver les vagues anglo-saxonnes. Tous mes mots vieux français éclatent et bouillonnent. Tous mes mots vieux français éclatent et bouillonnent. Si plages et forêts s'asphaltent sur carbone, si les ailes collées, les oiseaux abandonnent, moi qui me crois beau français, je sens que je décore. De mes mots censurés, que Villon me pardonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne.
« Alors, comme je vous le disais, nous allons parler avec le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. On va parler des langues officielles et du français. Bonjour Alexandre Cédric Doucet.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Bienvenue. Grand plaisir que vous soyez avec nous. D'autant plus. Donc, Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue. Il y a eu des demandes qui étaient faites. Et avant de revenir sur ces demandes exactement, est-ce qu'il y a eu des changements depuis?
Oui, effectivement. On avait revendiqué... on revendique depuis 2016. Que la nouvelle loi sur les langues officielles, lorsqu'elle sera modernisée, ça rimera avec la Charte canadienne des droits et libertés pour la spécificité du Nouveau-Brunswick. Quand le livre blanc est sorti, c'était pas ça. Ça répondait pas vraiment à 100% à nos demandes. Donc, on a sorti un communiqué de presse avec 18 autres organismes acadiens et francophones au Nouveau-Brunswick. On a eu une réunion avec la ministre Joly et je dois avouer qu'on est très. On est sorti de la réunion un peu plus convaincu.
Ah, d'accord. Ça serait donc mieux, parce que j'avais lu dans la liste des demandes qu'il y avait plein de choses qui n'avaient pas été reconnues.
Donc, effectivement, c'est que il y a au moins un vouloir du gouvernement fédéral de reconnaître la dynamique linguistique du Nouveau-Brunswick, donc son caractère bilingue. Mais dans le livre blanc, il n'y avait pas les détails. Effectivement, c'est les détails qui nous importent. Et là, on a pu échanger avec le bureau de la ministre Joly. Et on continue aussi à travailler avec son bureau. Donc, je pense que ça va beaucoup mieux de ce côté-là.
Alors, qu'en est-il des politiques d'immigration pour que ce soit, comme vous l'aviez demandé, un équilibre linguistique?
Effectivement, on est en train de travailler là-dessus. Je crois que présentement, les politiques d'immigration au gouvernement fédéral ne tiennent vraiment pas en compte l'équilibre linguistique qu'il devrait avoir. On parle souvent en droit linguistique de l'égalité réelle, mais au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment l'égalité réelle des deux communautés linguistiques. Donc, dans le cadre d'une politique d'immigration, on veut avoir l'immigration 50% pour les francophones, 50% pour les anglophones.
Oui.
Donc, le fédéral, à ce moment-là, est-ce qu'ils vont faire des programmes juste pour le Nouveau-Brunswick ou ils vont penser à peut-être décentraliser le ministère de l'immigration? On propose certaines solutions, dont la décentralisation du ministère de l'immigration au Nouveau-Brunswick, comme le Québec a eu dans les années 90.
Ah, ça
donc,
serait bien, ça.
On est encore en train de discuter ça, on propose des solutions, puis on verra si ça va arriver.
Et alors, un autre point que vous aviez demandé aussi, c'est que le gouvernement fédéral favorise l'exercice des droits et des privilèges égaux des communautés acadiennes et anglophones au Nouveau-Brunswick, notamment leurs droits aux institutions d'enseignement et aux institutions culturelles pour leur protection et leur promotion. Et là, il y a eu des réponses là-dessus aussi, sur chaque point?
Effectivement, c'est que, comme je disais un peu plus tôt dans l'entrevue, c'est qu'on demande que la nouvelle loi sur les langues officielles s'arrive avec la charte. Et ça, pour comprendre, il y a un petit contexte historique par rapport à ça. C'est la dernière grande modernisation qu'il y a eu lieu en 1988. Et en 1993, il y a eu l'enchâssement de la loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick. Elle a été enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés, qui est aujourd'hui l'article 16.1. Mais l'article 16.1 ne se retrouve pas dans la loi sur les langues officielles. Et nous autres, le nerf de la guerre,
ah oui.
c'est la partie 7 de la loi sur les langues officielles au fédéral. La partie 7, c'est toute la question des transferts, le pouvoir de dépenser du fédéral dans les transferts fédéral-provincial. Donc nous autres, on demande au fédéral de rajouter une spécificité pour le Nouveau-Brunswick. Parce que l'article 16.1 dans la Charte nous donne le droit d'avoir des institutions distinctes pour les francophones et les anglophones. Donc, ceci, pour illustrer un exemple, pour peut-être mieux comprendre,
oui.
On a les institutions distinctes, mais on peut penser à l'Université de Moncton, qui est notre seule université francophone et acadienne dans la province. Donc, on aimerait peut-être avoir un meilleur financement. Et en ajoutant cette clause-là dans la loi, ça nous permettrait peut-être d'avoir un meilleur financement directement du fédéral, parce qu'on sait que le poste secondaire est une compétence provinciale. Donc, ça, c'est pour donner un exemple. Et c'est une demande qu'on fait depuis plusieurs années, depuis 2016. Puis on va continuer les discussions dans ce sens-là.
Est-ce que j'avais lu à un moment donné quand vous avez été président et que vous avez commencé toutes ces demandes, qu'il y avait eu certaines attaques à votre encontre, non moins verbales en tout cas. Est-ce que ça continue ou?
Non. Les attaques n'avaient pas eu lieu en cause du fédéral, mais c'est plus au niveau du provincial. Ce qui est arrivé, c'est que les institutions qui sont reconnues sous la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick doivent communiquer dans les deux langues officielles, puis doivent offrir aussi un service dans les deux langues officielles. Et en pleine pandémie, je pense que c'est au mois de juin, ce qui est arrivé à Caraquet, dans le nord-est de la province, qui est totalement francophone comme région, il y avait un gardien de sécurité unilingue anglophone qui était en train de poser des questions aux gens. Et Alcool Nouveau-Brunswick est une institution reconnue sous la loi, donc j'ai décidé de faire une plainte. Et là, j'ai reçu plein de menaces.
D'accord.
J'ai reçu des menaces de mort, de viol. Mais depuis ce temps-là, j'ai fait affaire avec la GRC. Ça s'est arrangé. Mais écoute, quand on mène des combats pour les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick, c'est malheureusement une réalité qu'on doit faire face à des critiques puis à des menaces.
Faire face à des critiques et des menaces, il y a quand même une nuance, je trouve. on va reprendre cette discussion tout de suite après. On fait une pause musicale et petit cadeau, on prend une chanson des Hôtesses d'Hilaire qui nous chante Hostie qu'on est bas. Voici de retour, toujours avec Alexandre Cédric Doucet. Donc, Mon collègue Fulgence a une question pour vous, alors je le laisse vous la poser.
Alexandre Cédric. Allô?
Oui.
Vous êtes là, voilà. J'aimerais bien savoir, puisqu'on parle de province parfaitement bilingue, si j'ai bien compris, mais quel est le quotidien des citoyens de tous les, dans leur vie de tous les jours? Comment ils se sont servis directement dans les deux langues? Comment ça se passe?
C'est une excellente question, puisque la plupart des francophones en dehors du Québec et en dehors du Nouveau-Brunswick pensent que le Nouveau-Brunswick, c'est un peu le nirvana au niveau des droits linguistiques et tout se passe bien.
Oui.
Mais c'est un peu le... Pas c'est le contraire, là, mais la province est officiellement bilingue, mais sur papier. Mais en pratique, c'est encore, on est encore vraiment loin de l'égalité.
Il y a du chemin à faire.
Linguistique. Ouais, il y a beaucoup de chemin à faire et il y a aussi beaucoup de tensions linguistiques. On a même un parti politique qui a deux députés présentement à l'Assemblée législative qui est ouvertement contre le statut du bilinguisme de la province. Donc, on a encore cette montée-là de l'extrême droite qui est encore bien présente. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'historique de la province, mais dans les années 90, on a même eu un parti qui était le parti officiellement à l'opposition, qui était le parti CORE. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que le nom spécifiquement, mais c'était aussi le parti qui était pour l'abolition du bilinguisme. Puis ce parti-là, qui s'appelle le People Alliance, qui a deux députés aujourd'hui, est un peu la descendance de ce parti-là. Fait qu'on a encore un peu de... On a pas encore un peu, mais on a encore beaucoup de tensions linguistiques dans la province. Puis c'est comme si on a les deux communautés linguistiques sont deux solitudes qui se connaissent pas. Et je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire.
C'est sûr. Mais justement sur la même lignée, dans la question que j'avais préparée tout à l'heure, c'était aussi de parler de votre premier ministre qui ne parle pas le français, si?
Il ne parle pas français. En plus, là, je viens de dire que je viens de parler du parti CORE, mais notre premier ministre, c'est un ancien chef, pas un ancien chef, mais un ancien candidat à la chefferie de ce parti-là.
Ah, d'accord. Donc, j'ignorais.
Il a lui-même été ouvertement pour l'abolition du bilinguisme au Nouveau-Brunswick dans son passé. Maintenant, il a déjà dit publiquement à plusieurs reprises depuis qu'il a été élu qu'il a changé. Mais c'est que le premier ministre, c'est un centralisateur. Il reste un peu dans la capitale, puis il va pas faire du terrain pour connaître un peu la réalité des gens. Tu sais. Mm. Fait, il y a quand même une incompréhension assez empirique de la situation linguistique au Nouveau-Brunswick. Puis ça fait en sorte que quand il y a des prises de décision ou des discours publics, mais c'est un peu toujours maladroit.
Oui.
Fait que ça fait en sorte de un peu jeter de l'huile sur le feu, peut-être sans vouloir, mais ça descend pas la tension linguistique dans la province. Donc, encore une fois, je pense qu'on a du chemin à faire, puis je pense que nos députés doivent faire un meilleur travail de vulgarisation puis d'éducation vers la population en matière de langue officielle. C'est pas parfait. Mais on a quelques champions à l'Assemblée législative, mais ça nous en prendrait 49, qui est le nombre total de l'Assemblée législative, pour qu'on ait enfin une cohésion sociale.
D'accord, je comprends mieux. Et quand vous allez dans la rue face aux commerçants, par exemple, partout, est-ce qu'il y a des anglophones qui ne veulent pas du tout entendre parler du français, ou il y a des acceptations qui se font autant d'un côté que de l'autre?
Ça dépend des régions.
Oui.
Tu sais, quand on va dans le nord de la province, mais le nord de la province, j'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est presque à 90% francophone. Donc,
d'accord.
Le quotidien se passe en français. Mais quand tu te déplaces dans les régions urbaines comme Moncton, Fredericton, Saint-Jean,
oui.
Là, par exemple, à Moncton, c'est pas mal 50-50. Mais même à ça, tu sais, je pense, puisque l'anglais est une langue majoritaire, mais pas qu'on est en train de se faire assimiler, mais il y a toujours peut-être un petit danger. Et Fredericton, qui est la capitale, est majoritairement anglophone. Donc, il y a certainement... On est une province bilingue, mais c'est sûrement sur papier. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire encore pour arriver à un réel bilinguisme.
Est-ce que vous pensez que ça va se faire dans les années proches ou enfin, de façon assez proche? Je veux dire, on est en 2021, donc genre 2021-2022, ou ça va prendre encore du temps?
Moi, je pense que ça va encore prendre du temps. Je suis quelqu'un qui est habituellement très optimiste, mais c'est, là, ça fait 51 ans qu'on a adopté la loi sur les langues officielles. Et on est encore très loin du compte. On a justement un député hier qui a dû se lever en chambre parce qu'il n'y avait pas ses documents en français. Et ça a créé tout un scandale parce qu'il avait demandé ses documents en français. Donc, on a encore énormément de chemin à faire pour arriver à cette fameuse égalité réelle.
Alors, avant de terminer cette entrevue, juste un petit clin d'œil. J'aurais voulu savoir quelle avait été votre réaction quand ils ont parlé de cette firme en immigration de Vancouver qui avait dit que le point négatif au Canada, c'était de parler français.
Ben, je pense que c'est vraiment incompréhensible.
Ils ont fait des excuses, mais ils l'ont dit, quoi. Donc,
Oui, puis je pense qu'ils l'ont dit en anglais en plus. Puis c'est choquant de voir qu'une firme de consultation en immigration qui est financée par le fédéral va dire de telles choses. Je pense qu'on est un pays bilingue, qu'on doit se respecter. Et je trouve ça totalement incompréhensible, mais au moins j'ai vu que la ministre Joly avait demandé des excuses publiques.
Oui, les excuses publiques ont été faites, mais le mal est fait. Il donne comme explication que ça a été rédigé par un collaborateur extérieur, mais j'ai jamais vu ça. Même si c'est rédigé par quelqu'un d'extérieur, c'est revérifié par quelqu'un de l'intérieur, on va dire. Donc, c'était quand même un geste un peu volontaire. Bon, enfin, chacun va le prendre comme il veut.
Effectivement. Moi, quand on a des... À l'interne, quand on a des communiqués de presse qui sortent, c'est moi qui ai toujours le mot de la fin. Donc, ça devrait être la même chose
donc,
pour leur film.
Voilà, vous voyez, vous savez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je trouve ça toujours un petit peu gênant, quoi, même plus que gênant. Surtout... moi, je vis ici au Québec et ici, le français est beaucoup plus, quand même beaucoup plus facile. Donc, je vous souhaite que votre région devienne comme ça aussi. Maintenant, vous avez encore du pain sur la planche?
Oui, tout à fait. On a beaucoup de réformes qui ont lieu présentement et on essaye de faire le meilleur travail qu'on peut.
Écoutez, si vous êtes sorti de votre réunion avec la ministre Joly avec plein de, comment dirais-je, de bonnes intentions, j'espère que ces bonnes intentions vont s'écrire dans son petit livre blanc.
Pour je l'espère livre. Aussi, mais c'est pas dans le livre blanc que je veux la voir, c'est dans un projet de loi.
Oui, c'est vrai aussi. On voit bien l'homme politique là derrière. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes toujours en train de suivre des cours?
Oui, pour devenir... je finis mes études dans exactement un mois.
Dans un mois, alors.
Ouais.
Écoutez, bonne chance pour tout, bonne continuation, puisque la politique fait profondément partie de votre vie. J'ai vu ça en regardant votre parcours professionnel, alors je vous souhaite le meilleur et puis... Ça a été un vrai plaisir de vous avoir et moi j'en ai appris plus. Et vous savez quoi? Vous m'avez donné le goût cet été de faire un voyage au Nouveau-Brunswick pour aller voir.
Ben, merci énormément. On va vous accueillir à bras ouverts.
J'irai du côté français, moi, parce que je suis française et l'anglais n'est pas ma langue.
Ben, on va vous accueillir à bras ouverts, surtout notre premier ministre a annoncé aujourd'hui que si... Les gens sont vaccinés à 75%. Le Nouveau-Brunswick ouvre ses frontières au reste du Canada en juillet.
Oh, cool! Eh bien, c'est super. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup à vous.
Effectivement.
Merci, Alexandre.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci beaucoup, merci beaucoup pour le clin d'œil d'un artiste acadien. Surtout que les Hôtesses du Lard, le chanteur, c'est notre vice-président à la Société de l'Acadie.
Oui, c'est ce qu'on nous avait dit. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait le petit clin d'œil de la chanson.
Je vous souhaite une belle journée.
Merci à vous. Au revoir.
Merci. Bye-bye.
Dans la soupe à ma grand-mère. Dans la soupe à ma grand-mère. J'aimais bien les pommes de terre. Mais j'aimais pas
jouais aux billes à l'école. Je jouais aux billes et je me moquais bien des filles qui se moquaient des garçons. Le dimanche à la grand-messe, le dimanche à la grand-messe, j'aimais bien chanter les cantiques, mais j'aimais pas les sermons. Dans la soupe à ma grand-mère, dans la soupe à ma grand-mère, j'aimais bien les pommes de terre, mais j'aimais pas les oignons.
On vient d'entendre Hugo Frey qui nous chantait « La soupe à ma grand-mère ». Et restez avec nous parce qu'on parle infection dans la prochaine demi-heure. On parle avec le docteur Carl Weiss.
Oui, de maladies infectieuses.
Maladies infectieuses.
Oui, campagne de financement.
À tout de suite.
À tout de suite, on vous revient.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Elle
fait peur. Voilà, pas mal. Moi, ça me fait pas peur. Je sais que ça va arriver un de ces jours. On a déjà notre invité qui est au téléphone. Malgré son emploi du temps chargé, Dr Calvice a eu le temps d'être avec nous au moins pour quelques minutes pour nous parler un peu de ce centre d'excellence en maladies infectieuses de l'Hôpital Général Juif qui a lancé sa deuxième campagne de financement depuis le 8 mars jusqu'au 15 avril. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le présenter rapidement avant de lui dire bonjour. Le Dr Calvice est un microbiologiste, éminent spécialiste en maladies infectieuses. Il est également professeur à la faculté de médecine de l'Université McGill. Il dirige aussi le service des maladies infectieuses de l'Hôpital Juif Général. Juif, c'est bien ça. Il compte le plus important volume de cliniques en maladies infectieuses au Canada. Et il est le porte-parole du Centre d'excellence en maladies infectieuses de l'Hôpital Général Juif, qu'on appelle le CEMI. Bonjour, Dr Calvice.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
On va bien? Oui, on va bien, tant qu'on n'a pas le virus dans le studio ici.
Si vous nous faites pas peur, on va continuer à aller bien.
Mais je ne vais pas vous faire peur et vous n'avez pas à avoir peur. Il ne faut pas avoir peur.
Oui, mais vous me faites peur, Dr Calvice. Quand vous dites que les maladies infectieuses représentent le plus grand défi de la médecine du 21e siècle, ça fait peur.
Ça fait pas peur et en même temps, c'est réaliste parce que ce qu'il faut savoir, il faut savoir la chose suivante. Pensez à tout ce qui a touché le monde en général dans les dernières 30 années en termes de maladies, en termes de médecine. Hein. Oui. Quand on vous dit qu'est-ce qui a touché le monde, ben on va penser à quoi? On va penser, il y a 30 ans, au sida, au HIV, on va penser aux hépatites, on va penser au Clostridium difficile, on va penser aux virus comme le virus du Zika ou la dengue, on va penser à des virus comme le virus du Nil, on pense au H1N1, la pandémie de 2009. Donc chaque fois qu'il y a des choses qui nous affectent, ça touche beaucoup les maladies infectieuses, et évidemment maintenant la COVID-19, qui est vraiment quelque chose qui non seulement a touché les maladies infectieuses, mais a carrément changé la planète. Et donc dans ce contexte-là, on n'a pas le choix de dire que les maladies infectieuses sont le plus grand défi du 21e siècle, comme ça a été le plus grand défi de l'histoire. Vous savez, dans le monde, en 1900, même au Canada, au Québec, un peu partout dans le monde, en 1900, l'espérance de vie était de 45 ans. Okay? Quand on naissait, et la moitié des enfants qui naissaient n'atteignaient pas l'âge de 18 ans. Donc un enfant sur deux qui naissait n'arrivait pas à l'âge adulte parce qu'il mourait avant de toutes sortes d'infections. Donc, grâce à l'hygiène, grâce aux vaccins, grâce aux antibiotiques, on a réussi à complètement changer cette donne-là. Oui. Et on est aujourd'hui dans un contexte où les maladies infectieuses ont fait progresser de beaucoup l'espérance de vie. Mais aujourd'hui, les maladies infectieuses ont pris d'autres visages. Quand on voyage, on peut attraper des maladies infectieuses. Il y a encore beaucoup de gens qui meurent dans le monde de maladies comme la tuberculose. Il y a encore beaucoup de gens qui meurent du VIH. Il y a beaucoup de gens qui meurent de toutes sortes d'infections. Et quand on vient dans un hôpital, le grand défi, si vous voulez, vous savez, les gens qui ont des systèmes immunitaires qui sont affaiblis, donc les gens qui prennent des médicaments, par exemple, de chimiothérapie ou les gens qui ont des chirurgies importantes, ben, le gros risque pour eux, encore une fois, c'est de faire des infections. Oui. Alors tout ça fait que les maladies infectieuses sont le grand défi de la médecine des prochaines 30 ou 40 années.
Ouais. Là, maintenant, on va parler d'argent maintenant. Parce que la campagne de financement, il s'agit d'aller amasser le maximum de...
Mais c'est intéressant aussi de savoir tout ce qui s'est passé et puis de le ramener au monde depuis déjà des années. Merci beaucoup pour cette explication.
Voilà, c'est clair. On va parler maintenant d'argent. Parce que c'est la deuxième phase de cette campagne de financement. La première étape avait eu lieu en automne passé. Vous avez amassé presque 5 millions.
Tout à fait.
Mais l'objectif, c'est quoi? 7,5 millions. C'est bien ça.
Oui, notre objectif, c'est 7,5 millions. Pourquoi? Pour une campagne qu'on appelle ordinaire, extraordinaire.
Ah,
pourquoi?
Oui.
Parce que ordinaire, on veut retourner dans un monde ordinaire. Hein? On veut retourner dans le monde où on était capable de voir notre famille, nos amis, on était capable d'aller faire du sport en équipe, on était capable d'aller au restaurant, d'aller sortir, d'aller se promener, de faire tout ce qu'on faisait avant qui paraissait normal, qui semblait ordinaire et qui aujourd'hui nous semble extraordinaire.
Extraordinaire, oui.
Alors c'est juste ça, là. C'est juste cet aspect-là. Mm-hmm. Et ça, ben, il va falloir l'arranger à un moment donné. Et puis, je vous dirais, pratico-pratique, donc c'est un peu ça, de créer un centre d'excellence. C'est une idée qu'on a eue avant la COVID, hein, ce centre d'excellence-là. Ça a commencé avant la COVID.
Ah, ça n'a pas commencé avec la COVID. Hein.
Donc, on avait pensé déjà à ça il y a 2-3 ans. Et après ça, ben, avec l'arrivée de la COVID, ça n'a juste qu'accéléré le tout.
Oui.
Alors voilà.
OK.
Et donc notre objectif est vraiment d'aller trouver cet aspect-là, d'améliorer, si vous voulez, notre capacité dans le futur à diagnostiquer les maladies infectieuses, à chercher des maladies infectieuses et aussi quand il va y avoir des choses qui vont émerger comme ça, de nouvelles maladies infectieuses, on aura une meilleure capacité d'y répondre rapidement.
Oui, oui. Le centre. J'aime bien ça, ordinaire, extraordinaire. C'est .ca, hein, c'est pas .com, .ca.
.ca, c'est ça.
Oui, celui qui, pour ceux qui nous...
un peu notre campagne.
Oui, oui, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez faire un don, vous voulez faire un geste, c'est là qu'il faut aller. Ordinaire, extraordinaire, en un seul mot. En un seul mot, .ca. C'est là-bas que se trouve c'est le site des dons. Alors, il faut qu'on atteigne les 7,5 millions de... Mais Arlette voulait poser une question, oui.
Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce centre en plus de ce qu'il y a déjà? C'est pour amener des nouvelles...
Alors, ce qu'on va surtout voir, c'est augmenter notre capacité. Comment on va augmenter cette capacité? Il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on aille recruter des gens, des infirmières de recherche, il faut qu'on recrute des coordinateurs de recherche. On veut aussi offrir des potentialités pour des étudiants gradués, des gens qui vont faire de la recherche en maîtrise à d'autres niveaux, la recherche en maladies infectieuses, au laboratoire de maladies infectieuses. Donc, tout ça, ça va être notre campagne ordinaire, extraordinaire. C'est un peu dans cette optique-là.
D'accord, merci.
Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, ils vont se dire, mais à quoi va servir mon don? Qu'est-ce que vous leur répondrez?
Ben, écoutez, je vous dirais que la meilleure chose, c'est que si on est capable d'obtenir, il faut qu'on soit capable au Québec d'avoir une structure qui va nous permettre justement d'être compétitif, de pouvoir être parmi les meilleurs sur la planète, où on va être capable d'aller justement chercher ces groupes-là.
Oui.
À ce moment-là, on va être capable de pouvoir améliorer notre capacité de réponse qu'on n'a pas eue initialement. On n'a pas eu ça, on n'a pas eu cette capacité de réponse initiale. Et là, il va falloir qu'on soit capable de faire beaucoup mieux dans le futur.
Oui. Voilà. Alors là, je vais tout de suite, avant de vous laisser continuer, pour ceux qui font les dons entre 20 000 et 49 000, 980, ça m'a fait rire ce chiffre, 999, on pourrait mettre à 50 000 en même temps.
Donc, ça n'a pas le même impact sur le cerveau.
Pourquoi vous n'arrondissez pas?
C'est pas moi qui organise tout ça, ça c'est la fondation.
C'est la fondation même.
Ouais, donc tout ça, c'est du travail de la Fondation de l'Hôpital Général Juif. Moi,
oui.
Je suis évidemment pas impliqué dans tout cet aspect-là, mais c'est eux qui gèrent ça et qui gèrent de façon très sérieuse là. Mais ça, c'est eux qui gèrent ça. Donc tout ce qui touche l'aspect des types de dons. Mais vous savez, nous, tous les dons sont les bienvenus. On n'a pas besoin de donner de gros dons. Ça peut être un tout petit montant qui peut même être symbolique, mais chaque dollar qui est ramassé va avoir un effet positif. C'est pour servir tous les Québécois et tout le monde peut donc donner. Les gens n'ont pas besoin de donner de gros montants. On veut que les gens soient tout simplement... C'est juste cet aspect-là. Quoi.
Oui, oui.
Donner en fonction de notre porte-monnaie à chacun.
Tout à fait.
Oui. Mais qu'est-ce que quand vous vous êtes retrouvé avec vos collègues pour mettre sur pied ce centre d'excellence de maladies infectieuses, ça s'est passé avant la pandémie. Est-ce que vous avez déjà dit, tiens, on a déjà eu des pandémies comme ça, peut-être que ça va revenir, ou bien si vous avez eu des échos de cette pandémie qu'on vit actuellement comme ça, c'est ce qui fait que vous avez mis ce centre d'excellence de maladies infectieuses en sur pied?
Ben écoutez, c'est ce que je disais un peu au début, c'est tous les défis des maladies infectieuses. On a déjà vécu des pandémies, on a vécu la pandémie de H1N1 en 2009.
Oui.
Il y a des gros défis aux maladies infectieuses. Un des gros problèmes des maladies infectieuses, ça va être la résistance aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques, ça va être quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement compliqué dans les prochaines années. Et donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va être certainement un très, très gros défi à venir et on va devoir certainement être prêt. Et c'est ça qui nous a mis, je vous dirais, entre guillemets, la puce à l'oreille. Là. C'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille, qu'il fallait aller à un autre niveau.
Oui.
Et qu'il fallait donc travailler, et qu'il fallait travailler à un autre niveau à ce moment-là.
Ouais. Et quelle est la collaboration avec vos collègues des autres centres universitaires ou bien des autres hôpitaux concernant le centre? Est-ce qu'ils sont impliqués ou bien c'est seulement vous?
Oui, bien sûr. Mais nous, moi, vous savez, personnellement, j'ai déjà collaboré avec beaucoup de mes collègues dans les autres hôpitaux au Québec. J'ai déjà été en charge d'un réseau sur les infections respiratoires avec des gens partout au Québec. Alors moi, je collabore. J'ai un autre chapeau aussi. Je suis le président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec. On est 220 spécialistes au Québec. Et j'ai mes collègues partout dans la province qui collaborent également à cet aspect-là. Donc, on est un petit peu partout, là.
Oui, d'accord. On va faire une petite pause musicale et puis on vous revient juste pour terminer. On va pas finir ça sans toutefois parler un peu de ce qu'on vit actuellement, de ce monstre invisible, c'est comme ça que je l'appelle, le coronavirus.
Mm-hmm.
Oui, qui terrorise le monde entier. On fait une petite pause musicale pour vous permettre de respirer et puis on vous revient.
Good old fashioned, hold down. Fashion over, hold down. Backseat like glacier downtown. Real estate's a no sound. Real estate's a no sound. Diamond flake, got my protein shake. Do we join the mafia? Or she did just see the take, 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 take. Diamond flake, got my protein shake. Do we join the mafia? Or she did just see the take, 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 take. So it's a party, Highlander baby. So it's a city, hey.
Yourself down and let yourself down.
Double Hitter et Dominique Fils-Aimé, Diamond Flake. On a toujours notre invité avec nous, Dr Calvais, le porte-parole du Centre d'excellence en maladies infectieuses de l'Hôpital Général Juif, pour la deuxième phase de la campagne pour amasser beaucoup d'argent. Dr Weiss.
Oui.
Pour amasser beaucoup d'argent. Voilà.
Alors, on veut ramasser de l'argent, mais on veut surtout, c'est pas juste l'argent, c'est qu'on veut prendre cet argent pour développer des choses, pour servir la population du Québec.
Oui.
Et puis pour servir tout le monde. Vous savez, l'Hôpital Juif, on est un hôpital qui desservons tout le Québec. On est partout dans tous les domaines. On reçoit des gens de partout au Québec qui viennent pour nos activités, pour notre expertise. Alors, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir.
Oui. OK. Et concernant les enjeux de la recherche, d'ailleurs, vous parlez de l'ère de la mondialisation, les infections voyagent allègrement, sans frontières, sans limites, moi, je dirais même sans visa et sans passeport. Mais ça veut dire que quoi? La mondialisation aussi a un rôle à jouer dans cette histoire d'infection mondiale, de pandémie mondiale?
Ben, tout à fait. Vous savez, imaginez-vous que vous viviez, au Moyen-Âge, là. Quand on vivait au Moyen-Âge, pour qu'une infection parte d'un endroit à un autre, ça allait à la vitesse avec laquelle on se déplaçait. Donc, habituellement, c'était soit à pied, soit à cheval. Donc, les infections se déplaçaient à la vitesse au plus vite des chevaux. Aujourd'hui, les infections se déplacent à la vitesse des avions. Alors, aujourd'hui, en 12 heures, 14 heures, vous pourriez être à peu près à n'importe quel endroit sur la planète. Et puis, voilà. C'est ça qui est un petit peu, c'est ça qu'il faut regarder en perspective, quoi.
Oui.
Et c'est comme ça qu'il faut voir un peu comment on pourrait organiser les choses pour voir que, vous savez, je vous donne un exemple. Quand il y avait des pandémies au Moyen-Âge, ben, ça prenait des années pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, cette même pandémie va prendre quelques jours pour se déplacer. Regardez, en mars 2020, donc il y a à peu près un an, il y avait 117 000 cas confirmés de COVID-19 sur la planète. Il y en avait probablement plus, beaucoup plus, mais disons que même s'il y en avait 10 fois plus, même s'il y en avait 1 million de cas, c'est pas grave. Aujourd'hui, en un an plus tard, on a confirmé 120 millions de cas sur la planète. En un an, on est passé de 110 000 confirmés à 120 millions. Jamais dans l'histoire, il y a eu autant de gens, autant malades, aussi vite malades, partout sur la planète. Et quand on dit 120 millions, il y en a probablement 5 fois, peut-être 10 fois plus.
C'est un record.
Mais c'est pas grave. Mais ça vous montre comment les transports modernes font que les maladies se répandent très vite.
Oui. Ça fait peur, ça. Alors, dans ce cas, de toute façon, c'est pas pour ça qu'on va arrêter de voyager. Ou bien, ou bien supprimer toutes les compagnies aériennes.
Du tout. Il faut continuer. Mais c'est juste qu'il faut comprendre les enjeux maintenant de ces voyages-là.
Oui.
Et les impacts que ça peut avoir sur, justement, l'émergence de ces maladies infectieuses.
Oui.
Tout à fait.
Oui. Et puisqu'on y est là, on va parler rapidement de du coronavirus qui nous terrorise depuis un an. Vous, en tant que spécialiste, si on vous demandait les erreurs qui ont été commises dès le début, ou bien quoi, si c'était à refaire, ou bien qu'est-ce qu'il faut revoir, si c'était à refaire?
Bon, ben, je pense que s'il faudrait refaire, il ne faudrait pas avoir peur de prendre des décisions beaucoup plus rapides qui ont été extrêmement importantes. Par exemple, le port universel des masques au Québec a joué un rôle très, très important pour stopper la pandémie. Donc, je pense que dans le futur, ce qui serait important, ce serait quand il faut pas... C'est sûr c'est facile de dire en rétrospective, mais nous, on l'a fait à l'Hôpital Général Juif. Mais ce qui est important, c'est de vraiment mettre en place des mesures très, très rapides pour pouvoir, justement, se battre contre ce genre de virus-là. Il ne faut pas avoir peur de prendre des mesures presque, entre guillemets, extrêmes. Il faut être capable de mobiliser sa population très rapidement de façon inhabituelle. C'est une guerre, le coronavirus. Ce n'est pas quelque chose de normal et naturel, une pandémie. Oui. Donc, il faut être prêt à mettre toutes les ressources que l'on a et les mobiliser rapidement à la disposition, si vous voulez, de combattre un petit peu tout cet aspect-là de coronavirus. Oui. C'est un peu ça.
Wow. C'est vraiment... Arlette, tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus?
Non, non, rien, j'écoutais.
Oh là, tu dois voir, parce que là, vraiment, c'est au fait. Bon, on va un dernier mot à nos auditeurs qui nous écoutent, là, qui veulent nous envoyer de l'argent à l'organisme, oui, au Centre d'Excellence en Matière. Allez-y sur le site, hein, c'est ordinaire, extraordinaire, en, tout en un seul mot, .ca. Alors là, vous entendez le porte-parole qui est au four et au moulin. On l'entend, on le voit partout. Merci d'avoir eu ce temps-là, d'être venu nous... parler un peu de ce centre d'excellence et puis le dernier mot. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, rapidement, pour les dernières secondes de l'entrevue, ce vaccin que tout le monde veut rejeter maintenant?
Alors, vous parlez du vaccin d'AstraZeneca.
Oui, j'ai préféré vous laisser dire le nom.
Ben, écoutez, c'est un vaccin qui est pas un mauvais vaccin pour les gens plus âgés, si on veut prévenir une maladie qui est très sévère comme la COVID. Oui. Mais c'est sûr que même l'Agence européenne du médicament aujourd'hui vient de nous dire que c'est un vaccin qu'il faut administrer mais dont il faut continuer à surveiller les effets secondaires. Oui. Et de façon pratico-pratique, je pense qu'on va avoir... On a déjà au Canada d'autres vaccins comme le vaccin de Pfizer, de Moderna. On aura le vaccin de Johnson & Johnson. Peut-être d'autres après, peut-être même un vaccin canadien d'une compagnie du Québec qui s'appelle Medicago. Et je vous dirais que le vaccin d'AstraZeneca, c'est un vaccin qui, pour les personnes âgées où le risque de faire de la COVID de façon très importante est élevé et de compliquer de la COVID, ça vaut la peine. Maintenant, pour des gens plus jeunes, je ne suis pas sûr que ce vaccin-là, dans l'état actuel des choses, des gens qui ont peu de chances de tomber malades, hein, si vous faites la COVID, à ce moment-là, ces gens-là n'ont pas forcément besoin de recevoir le vaccin immédiatement. Si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous n'avez pas de problème de santé, eh ben, c'est sûr qu'il y a de meilleurs... Le risque de la COVID pour vous est quand même très faible. Le risque de compliquer de la COVID est très faible. Et à ce moment-là, ce vaccin-là, il y a des questions qui n'ont pas encore de réponse et il va falloir peut-être attendre l'arrivée de d'autres vaccins ou en tout cas certainement arrivée de vaccins qu'on a déjà. Hein. Quand je dis arrivée d'autres vaccins, les autres vaccins, ils existent déjà, on en a déjà donné. Moi-même, j'ai reçu le vaccin de Pfizer comme travailleur de la santé au mois de janvier. J'attends toujours ma deuxième dose, par contre.
OK. Ça va être dans 4 semaines plus tard, si je ne me trompe pas, depuis la première dose.
Ben, 16 semaines, mais c'est un peu long, mais c'est problématique. Ça. C'est un autre problème, mais on en reparlera une autre fois.
Oh, oui, d'accord.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, docteur Calvez.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Porte-parole du Centre d'excellence en maladies infectieuses du l'Hôpital général juif. La campagne, c'est jusqu'au 15 avril. Hein.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, c'était Dr Karl Weiss, porte-parole du Centre d'excellence en maladies infectieuses de l'Hôpital Général Juif pour la campagne qui va jusqu'au 15 avril. Objectif, 7,5 millions à obtenir. Arlette, moi, même si je donne un dollar, il a dit que ce n'est pas important le montant qu'on donne. Hein.
Après, sur le nombre de personnes qui habitent au Québec et ailleurs, si jamais ils donnent tous un dollar, ça va déjà être... énormément. Donc, tant mieux pour eux.
Oui, oui, c'est vrai. C'est parce que quand j'ai vu le don entre 20 000 et 49 000, vous avez une plaque sur l'installation de reconnaissance, une invitation à la cérémonie de remerciement.
Oui, mais ça, c'est pour les gros donateurs, mais les trois quarts des donateurs sont des donateurs tout à fait moyens.
Comme ça, moi, voilà, comme toi, comme plein d'autres personnes. Quoi. Non, je sais que je vais donner quelque chose, ça c'est clair. Faut pas... C'est une très bonne campagne pour tout le monde, d'ailleurs, et puis... Ah, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ont mis ça sur pied avant la pandémie.
Ben, la maladie infectieuse n'est pas née avec le COVID-19. Faut arrêter avec ça.
Tu en as connu, toi ?
On travaille là-dessus. Ben, tout ce qu'il a noté, oui, qui sont arrivés il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans et 30 ans, oui. J'étais aussi là-dedans.
Non, pas comme...
Si. C'est la fin de l'émission, donc je veux remercier Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, et puis pour la langue française. Donc on espère qu'il aura ce qu'il veut le plus tôt possible. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Merci à Dr Calvez pour le Centre d'excellence des maladies infectieuses. Allez-y, donnez de l'argent là-bas. Ordinaire, extraordinaire.ca.
À demain.
On se voit demain.
Entendu.
Pour pour parler d'autre chose.
Oui.
En ce